Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spots, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode un peu spécial, ici Richard Delhomme. Un petit peu spécial parce que les épisodes 192 et 193 étaient déjà enregistrés, mais là, vu l'importance de ce que Vanessa va nous raconter, j'ai pensé qu'il était absolument nécessaire de balancer ça un petit peu hors cadre. Souvenez-vous de cette réplique de Pierre Mortès dans Le Père Noël est une ordure, quand il s'apprête à offrir un tableau avec une truie et il dit « Oh, Thérèse, comme la vie est savoureuse !» Eh bien, c'est exactement ce que je me suis dit vendredi dernier. Je buvais paisiblement un Coca Zéro pendant une balade à vélo. Zéro parce que Guillaume Klein, mon nutritionniste, m'interdit le sucre et me fait même manger des sardines au petit-déj. Lorsque, au loin, je vois arriver un vélo avec des sacoches qui s'arrête au bar d'en face. Oui, je ne regarde que les vélos. Ça pourrait être Margot Robbie qui fait la vélocénie et s'arrête à maintenant, je ne m'en rendrai même pas compte. En repartant, je m'approche tranquillement, balance un « Ah, c'est sympa le bikepacking, hein ?» Et là, on commence à discuter. Tenez-vous bien, ce n'était pas Margot Robbie, mais Vanessa. Ou plutôt, devrais-je dire docteur, ou peut-être même professeur, ou simplement Vanessa, Vanessa ou même Vanou. Et j'ai appris par la suite que le surnom officiel de Vanessa, c'est Vava, depuis qu'elle a 5 ans. Donc, Vanessa est chirurgienne de la main, spécialisée dans la chirurgie du canal carpien, le doigt à ressaut, la maladie de Dupuytren, la rhizarthrose, l'arthroscopie du poignet, les traumatismes du sport, les traumatismes du poignet et leurs séquelles, ainsi que la microchirurgie nerveuse. Et comme je termine un article sur les fourmillements, picotements et autres pertes de sensibilité dans les extrémités pour le numéro d'octobre de Planète Gravel, je ne pouvais passer à côté d'une telle opportunité et je ne pouvais pas... Attends, j'ai mal écrit mon truc. Je ne pouvais... Bref, il fallait absolument que je vous balance ça le plus vite possible. Question de santé publique, en quelque sorte. Et maintenant, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le docteur Vanessa Costil.
Bonjour Richard, ça va ? Merci pour cette jolie présentation.
Hier, est-ce que c'est fidèle à la réalité ?
Moi ? Pas mal.
La présentation professionnelle, oui, parce que j'ai fait un bête copier-coller de ce que l'on voit sur les lieux de médecine où tu interviens. Donc là, j'ai rien inventé.
Mais notre rencontre
la
à
vélocénie.
C'était plutôt ça, non ? C'était exactement ça. Et la discussion qui s'en est suivie sur les canaux carpiens et nerfs ulnaires.
En tout cas, tu faisais la vélocénie, tu es parti sur un coup de tête jeudi soir. Enfin, en tout cas, jeudi soir, sur un coup de tête, tu t'es dit « Demain matin, je pars pour la vélocénie. » En deux fois 200 et une fois 90. Nous y reviendrons plus tard parce que ta passion pour le vélo est aussi dévorante que récente. Et tu te plonges à corps perdu là-dedans. Donc, tu as découvert récemment les bienfaits et les joies du bikepacking de l'aventure. Et comme si j'ai bien l'impression, tu en redemandes. Tu es extrêmement fière et extrêmement satisfaite de ce que tu as vécu ce week-end. Mais si tu veux bien, dans un premier temps, nous allons parler de traumatisme, de compression nerveuse, de canal carpien et peut-être même de tendinite. Alors, Vanessa. Si on reprend cette vieille phrase qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, « Bonjour à toutes et à tous, je fais du vélo régulièrement, mais au bout de quelques kilomètres, je ressens quelques fourmillements, picotements ou même une perte de sensibilité dans les doigts, un petit peu dans les pieds et très éventuellement un petit peu dans la nuque aussi. » De quoi ça vient ?
Bah, en fait, on a des positions un peu contraintes sur le vélo et on va, au fur et à mesure d'une promenade, d'une route, comprimer certains endroits du poignet où tu vas avoir des nerfs qui passent. Et la compression de ces nerfs, ça va donner deux choses, des problèmes sensitifs, donc ces sensations d'engourdissement que nous on appelle des paresthésies, et ces phénomènes moteurs, parce que parfois on a du mal à se servir du pouce et de l'index suite à cette compression, parce que les nerfs, ils ont un côté sensitif, mais aussi un côté moteur où ils vont te faire bouger les doigts. Et ça, c'est lié, chez les cyclistes en tout cas, essentiellement à la compression directe du canal carpien sur le guidon.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu parce que bon, on en a déjà maintenant parlé hier et dans l'article dans Planète Gravel pour simplifier et vulgariser au maximum, j'ai repris l'exemple du docteur Spock, de Monsieur Spock avec le salut Vulcain et finalement bah, qui dans un contexte plus compression nerveuse pour les cyclistes serait comme ça. Alors pour celles et ceux qui écoutent ça en podcast, je vous conseille vivement de venir voir la version vidéo sur YouTube, parce que non seulement là je vous fais un salut Vulcain, hein, bien-être et prospérité, mais surtout Vanessa va vous expliquer par où passent les nerfs, quels doigts sont touchés. Donc si vous voulez avoir vraiment toutes les explications, je vous conseille vivement de regarder sur YouTube. Maintenant qu'on reprend ce salut Vulcain, ces trois doigts-là et ces deux doigts-là. Attends, pas facile sur, voilà, enfin vous avez compris, ces deux doigts-là, voilà. Est-ce que tu peux reprendre justement quels nerfs interviennent pour à la fois le toucher et la motricité de ces doigts?
Alors, au niveau du poignet, tu vas avoir deux canaux. Un canal qui passe vraiment au milieu du poignet, qu'on appelle le canal carpien, et un qui passe plus du côté du cubitus ou du cinquième doigt, on va dire, et qu'on appelle le canal de Guyon ou t'as le nerf ulnaire. Donc deux canaux et deux nerfs. Dans chaque canal, il y a un nerf qui se promène. Donc, comme tu dis, le salut Vulcain, moi j'ai du mal à le faire. Je crois que je fais pas partie des. Voilà. Les trois doigts, donc qui comprend le pouce, l'index et le majeur, ça va être le nerf médian qui va les innerver. Et le nerf médian, il va beaucoup jouer aussi dans la pince pouce-index et l'innervation des muscles du pouce. Et le quatrième et le cinquième doigt, ça va être plutôt le nerf ulnaire qui va entraîner leur sensibilité. Après, pour la motricité, ça va être différent, mais c'est surtout ça.
Alors, en quoi c'est différent?
Pour faire simple.
Je te l'ai dit tout à l'heure. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il faut être précis là. Il faut aller dans les détails. On
Ouais,
a le
mais après,
temps.
c'est un peu compliqué parce que le nerf ulnaire, il va jouer aussi sur certains aspects de certains tendons du pouce, etc. Mais en gros, au niveau de la motricité, tu as plutôt des problèmes de ta pince pouce-index quand tu as un problème de ton canal carpien, de ton nerf médian, et tu as les trois premiers doigts qui fourmillent. Et puis quand tu as le nerf ulnaire, tu vas plutôt avoir les deux derniers doigts, le quatrième et le cinquième doigt, et tu vas plutôt avoir un problème, par exemple, d'écartement du cinquième doigt. Ça, c'est pour faire simple. Après, si on rentre vraiment dans l'anatomie de la main, ça peut durer très longtemps. On peut faire un podcast de 2 heures là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour simplifier, ça, c'est plus simple comme ça. Le nerf ulnaire, c'est le signe vulcain extérieur, on va dire, et le nerf médian intérieur. Sachant que les deux nerfs passent dans des canaux différents. Et le nerf ulnaire, tu vois, il est plus superficiel. Il va vraiment être sous la petite bosse là, qui est au niveau de la base du poignet. Et du coup, c'est vrai qu'il est fréquemment touché en fait en vélo parce que tu as tendance à appuyer rapidement dessus.
Alors justement, parlons-en. De quoi vient cette perte de sensibilité et comment on arrive à une compression de ces nerfs à vélo? Quelles sont les causes?
Alors, si on sépare en fait ces deux problèmes, d'un côté le nerf médian et de l'autre côté le nerf ulnaire, on va commencer par parler du nerf médian et du canal carpien. Le canal carpien, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, c'est le tunnel qui passe au milieu de la main. Là, tu as un tunnel dans lequel va passer le nerf médian, mais aussi tous les tendons qui te permettent de plier les doigts. Et du coup, le nerf, il est bloqué dans le poignet. Tu vois, quand tu plies le poignet, il y a tout se décolle pas parce que tu as un gros ligament ici qui maintient tout ça dans le canal carpien. Ce qui fait que si quelque chose comprime ou si quelque chose gonfle à l'intérieur, bah, le nerf, il se retrouve un peu écrasé entre les deux, tu vois. Donc, il y a le fait de beaucoup de se servir de ces tendons. C'est ce qu'on disait. Ça va inflammer un peu les tendons qui vont gonfler à l'intérieur du poignet. Et en plus, le fait de comprimer sur le dessus, le nerf, il se retrouve en sandwich entre le guidon et entre tes tendons fléchisseurs qui ont un petit peu gonflé avec l'effort et le fait de glisser pas mal lors des freinages. Donc c'est vrai que la position, elle va jouer, la position sur le vélo, elle va jouer sur cette compression. Et ensuite, quand le nerf y souffre, bah, il commence toujours par donner des petites fourmis au bout des doigts, tu vois, des engourdissements. Après, ça peut être plutôt des problèmes moteurs qui arrivent un peu après. En général, quand c'est lié à une compression de l'extérieur, donc du vélo, ça va rentrer assez rapidement dans l'ordre. Au bout de quelques semaines, quelques mois, même souvent quelques jours, tu n'auras plus aucun symptôme. Mais il ne faut pas que tu comprimes à chaque fois que tu fais une sortie de vélo ton canal carpien, parce qu'au bout de plusieurs années, ça risque de faire souffrir ton nerf un peu plus sérieusement.
Donc là, tu l'as dit, hein, brièvement, on parle toujours de compression des nerfs, on parle toujours de souffrance des nerfs, mais tu as également introduit la notion de tendinite sur les tendons du poignet, les tendons fléchisseurs, qui eux-mêmes vont sous l'action à la fois de la position, mais également peut-être d'une position trop crispée sur le guidon, soit sur le dessus, soit sur les cocottes, ou alors des freinages trop longs, trop intense ou tout simplement trop de crispation sur des périodes, sur des temps trop longs, on va générer une tendinite de ces tendons qui vont gonfler et qui vont faire une surcompression. Donc on a une compression du tendon sur le guidon avec une hyperflexion du poignet, mais en plus une surcompression avec la tendinite. Est-ce que c'est bon?
Ouais, c'est ça. Alors après, c'est ça exactement. Le tendon, il va pas forcément, tu vois, ça va pas forcément se voir sur des échographies et tout. C'est pas forcément une grosse tendinite, mais les tendons, ils ont autour d'eux une sorte de liquide qu'on appelle de la synoviale qui leur permet de bien glisser. Et quand ils glissent trop et qu'ils sont trop comme tu le dis un peu entraînés, et ben à ce moment-là, c'est la synoviale qui est autour du tendon qui va gonfler. On appelle ça une synovite plutôt qu'une tendinite. Cette synovite, c'est une espèce de gel en fait qui va prendre de la place dans le canal carpien et effectivement, ça va comprimer le nerf médian. Donc c'est pas forcément le tendon qui souffre, c'est souvent la gaine en fait qui est autour du tendon et qui permet que ça coulisse bien dans le poignet. Mais ça arrive plutôt secondairement chez des gens qui font beaucoup de vélo depuis de nombreuses années. C'est pas au bout d'une sortie, en général quand tu as une sortie de quelques heures et que tu as des fourmillements, c'est essentiellement positionnel. Quand ça fait plusieurs années que tu as ça et que tu as aussi la tendinite et la ténosynovite, tu peux avoir aussi, on en avait discuté, c'est des doigts ressauts, c'est des doigts qui se bloquent et on n'arrive pas tout seul à les débloquer, tu es obligé de prendre l'autre doigt pour le débloquer ou alors il se débloque tout seul mais avec un petit saut. Ça peut arriver aussi, c'est exactement la même chose, c'est aussi une tendinite des fléchisseurs et c'est pour ça que le canal carpien et le doigt ressaut, c'est très souvent lié. Tu as souvent les deux.
Dans le cas d'un picotement de très courte durée, tu vois, par exemple, récemment, en juillet, quand j'ai remonté mon vélo après la Norvège, j'avais mis mon guidon un tout petit peu haut, parce qu'il était démonté dans la valise. Donc, il était un tout petit peu haut. Et quand je roulais, ma poignée était forcément un petit peu haute. Et là, j'avais une très légère perte de sensation, très léger picotement. Mais quand je lâchais le guidon et que je secouais un petit peu, comme on fait tout le temps comme ça, comme on a comme si on avait un chewing-gum collé, tu vois, ça part en un instant. Et ça, c'est la même chose, je suppose, une très légère compression.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement une compression. Ce qui montre que si tu adaptes la position de ton guidon, la position de tes mains sur le guidon, tu peux éviter ces sensations d'engourdissement. Après, sur des très longues courses ou de l'ultra, je pense qu'au bout d'un moment, si t'es vraiment, t'as probablement toujours des fourmillements, mais tu peux éviter, en tout cas au quotidien, d'avoir ces petits fourmillements. Tu me parlais peut-être d'études posturales par rapport au vélo pour avoir un guidon à la bonne hauteur. Ça, c'est une bonne idée. L'orientation des cocottes par rapport au guidon, etc. Mais oui, exactement. Ce que tu as eu, c'était une compression extrinsèque, donc de l'extérieur de ton nerf médian, sans forcément avoir un syndrome du canal carpien comme on l'entend.
Ça, on va y revenir un tout petit peu après. Je vais même le noter parce que c'est important. Pardon. Alors, lorsque le constat est fait, ok, je roule, j'ai des petits fourmillements ou alors j'ai fait une sortie assez longue, comme toi, après t'es deux fois 200 km ce week-end. Est-ce que ça va mieux d'ailleurs? Parce que hier, tu avais ces deux doigts-là un petit peu picotés.
Justement.
Est-ce que tu les as récupérés?
On n'a pas encore parlé du nerf ulnaire. On a fait le premier truc sur le nerf médian. Le nerf ulnaire, ça va beaucoup plus vite. C'est le canal de Guyon qui est à côté. Là, t'as juste dans le canal, t'as quasiment que deux trucs. C'est l'artère ulnaire et le nerf ulnaire. C'est juste sous la peau et c'est celui qui est le premier exposé quand tu fais du vélo et qu'on doit protéger avec les gants. Et effectivement, je pense que comme tu dis, j'ai pas encore la technique idéale du cycliste et je suis restée longtemps dans la même position et j'ai eu ça. Et là, ça va beaucoup mieux. J'étais j'étais très mal dimanche et hier j'avais mal dans les doigts et là aujourd'hui c'est quasiment disparu. Je sens un mini picotement au bout du doigt. Ça va mieux.
Alors,
je suis en train de partir en quelques jours.
Comment éviter cela à la fois de ton expertise médicale et de ton expérience cycliste? Comment éviter cela?
Bah déjà, il y a la position que toi, tu as sur ton vélo. C'est vrai, comme tu disais, si c'est toujours en hyper-extension de poignet, appuyé au même endroit, etc., bah c'est pas bon. Il faut essayer d'avoir le poignet le plus en rectitude possible ou au moins à 20 degrés d'extension et pas complètement comme ça. Donc vraiment, faut le garder à peu près dans la prolongation de l'avant-bras. Donc la position de tes mains sur le guidon, c'est hyper important. Je pense qu'il y a le fait, on en avait discuté aussi, mais de porter des gants adaptés avec des bons renforcements au niveau de la main. Rouler trop longtemps sans gants, ben ça va exposer à ces compressions, à mon avis, plus facilement. Voilà. Et surtout, ah oui, il y a aussi une troisième chose, c'est essayer quand tu fais vraiment des longues distances de changer ta position de tes mains sur le guidon, de passer des cocottes au guidon devant et en dessous sur les poignets. T'as plusieurs positions possibles sur un vélo en fonction de là où tu te trouves et je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans la même position.
Alors, on va reprendre un petit peu, bon, je l'évoque un petit peu évidemment dans l'article, mais là visuellement c'est important aussi. Bien entendu, la guidoline va avoir son importance avec une guidoline épaisse. On va pouvoir, en fait l'idée c'est simplement d'éviter le contact du poignet sur une surface dure. C'est un petit peu comme si on dormait par terre ou sur au moins un petit matelas gonflable ou sur un vrai matelas de lit. Eh bien, la différence est carrément sensible. On va pas du tout dormir de la même manière et on va pas avoir la même sensation de confort. Donc, pour prévenir ça, en plus de d'abord améliorer le confort et le toucher sur le guidon, donc avec une guidoline épaisse, éventuellement des pads que l'on va mettre sous la guidoline sur le haut du guidon. Le choix des gants est hyper important. Si on prend par exemple ceux-là, alors on voit, je ne sais pas si on voit bien, mais j'espère en tout cas, sur ceux-là, il y a juste la matière. Ici, la matière qui vient sur la main et il n'y a pas de pad. Tu vois, il y a vraiment que le tissu et je ne peux pas dire qu'il soit super confortable. Par contre, sur ceux-là, on peut voir ici, on le voit bien là, tu vois, j'ai un petit pad au niveau du poignet, donc qui va venir vraiment ici. Et ça, quand ma main est posée sur la cocotte, c'est radical, c'est le plus confortable. C'est juste dommage qu'il soit un petit peu fragile à l'avant parce que c'est juste un petit filet. Mais sinon, en termes de confort sur la paume de main et sur le début du poignet, il est absolument parfait. Donc le choix des gants va être aussi déterminant. La crispation que l'on va appliquer sur le guidon, sur les cocottes, notamment dans les secteurs techniques, va avoir son importance pour éviter ce que tu disais tout à l'heure sur tous les problèmes tendineux. Et enfin, bien entendu, avoir une position correcte, donc le guidon pas trop bas pour éviter d'avoir une hyperflexion du poignet, les cocottes pas totalement rectilignes, pour éviter d'avoir la main pareil, comme ça. Et si on regarde bien les guidons des cyclistes professionnels depuis quelques saisons, on voit que les poignets sont tournés vers l'intérieur, justement pour avoir une position assez anatomique, très légèrement, éventuellement 20 degrés, comme tu disais tout à l'heure, mais légèrement comme ça. Alors pour les pros, il y a aussi un intérêt aérodynamique, mais je pense qu'il y a aussi une petite découverte de confort parce que tout simplement, la main vient vraiment englober comme ça la poignée et c'est vrai que c'est super agréable. Ouais, donc en plus, les poignées sont un petit peu plus grosses qu'avant. Donc on a une prise en main et un côté naturel et en plus, un petit effet, un mini effet aéro où tu vois, tu gagnes 3 watts à partir de 67 km/h, franchement ça vaut le détour, quand même ça vaut le coup quand même d'orienter ses poignets. Donc il y a plein de petits trucs à faire. Avant d'avoir fait ces trucs-là, on a le constat d'une douleur, d'un picotement qui persiste. Ça dure combien de temps? Tu l'as dit un petit peu, mais est-ce que tu peux aller plus loin?
En fait, ça revient assez rapidement en général. Tu vois, moi, j'ai roulé ce week-end et là, c'est en train de partir au bout de 2 jours. Donc, au bout d'un moment, déjà, au bout d'une semaine, t'es plus trop censé avoir de signes. Mais chez certaines personnes, ça peut durer. Les nerfs, ça peut être un peu long. Je pense qu'il faut s'inquiéter au bout de 2 mois. 2 mois, t'as toujours pas récupéré. Je te parle de ça sans signe moteur. Hein. Si tu as juste des fourmillements et des douleurs, on ne parle pas des problèmes moteurs. Si tu as vraiment juste des paresthésies, fourmillements, au bout de 2 mois, il vaut mieux consulter un chirurgien de la main. Pourquoi ? Parce que ça peut révéler peut-être un canal carpien que tu avais déjà avant, ou peut-être que ça peut être un canal carpien qui va pas rentrer dans l'ordre. C'est pas seulement une compression extrinsèque sur ton vélo, il y a peut-être autre chose. Il faut peut-être traiter ça avec de façon médicale ou éventuellement chirurgicale. Donc au bout de 2 mois de paresthésie, il faut consulter. Ton médecin, il te demandera d'aller faire un électromyogramme. C'est un examen qui enregistre les nerfs. Et cet électromyogramme te dira si t'es touché un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Et en fonction de ça, on verra quel traitement on fait. Si t'as des signes moteurs d'emblée, au bout d'une semaine, même un peu moins, au bout de quelques jours, si t'as pas récupéré, moi je te conseillerais quand même de consulter un chirurgien, parce que quand tu commences déjà à avoir une atteinte de la fibre motrice du nerf, c'est quand même un petit signe de gravité quelque part. Et il vaut mieux être sûr qu'il n'y ait rien tôt, plutôt qu'attendre et pas récupérer complètement, tu vois. Donc, faire un électromyogramme peut-être un peu plus précocement si tu as aussi une atteinte motrice de ta main. Bah, après, si tu es en cours, tu peux attendre de rentrer. Hein, mais...
Oui, bah oui. Oh, je reviens, les mecs, je vais faire un électromyogramme.
Ouais, c'est ça.
Ah bah non, nous, on va à la station-service acheter des sandwichs. Ah bah... Chacun son truc, hein.
Ouais, je suis pas sûr.
L'électromyogramme, tu l'as dit, il sert à détecter une atteinte autre. Donc là où la pratique du vélo aurait révélé un problème qui est déjà existant, mais qui est une origine autre. Et là, le vélo sert juste de révélateur. Donc je suppose que tu parles de tout ce qui peut partir du rachis et de la source du système des terminaisons nerveuses.
Bah en fait, tu as deux types de choses. Soit tu as quelqu'un qui avait déjà un syndrome, soit un problème d'arthrose cervicale, soit un problème de névralgie cervico-brachiale, soit un problème de ténosynovite du poignet qui avait déjà une atteinte de son nerf a priori et qui a été révélée par la pratique du vélo. Soit tu as des gens qui pratiquent tellement le vélo qu'au bout de quelques années, ils se causent ces problèmes-là, tu vois. Au début, c'est juste une simple compression qui part, qui est extrinsèque, puis au fur et à mesure des années, ben, tu tues ton nerf et là, il y a quelque chose à faire. Donc, tu as les deux choses. Mais effectivement, ça peut révéler des problèmes plus hauts. C'est ce que je te disais, le nerf, il peut être comprimé à plusieurs endroits. Comme un tuyau d'arrosage dans le jardin, il y a plusieurs pierres qui empêchent l'eau de couler au bout du tuyau d'arrosage. Le nerf, c'est pareil. On lève les pierres petit à petit et on trouve les pierres. Donc, pour le nerf médian, les fourmillements des 3 doigts, là, du signe de Vulcain, tu peux être comprimé au niveau du poignet sur le guidon, mais tu peux être comprimé aussi au niveau du coude et aussi au niveau des cervicales. Donc là, on n'est plus au niveau du nerf, mais à la sortie de la racine de son trou de conjugaison avec de l'arthrose et des hernies, etc., ça peut être comprimé. Et chaque compression a un traitement différent. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux consulter un médecin au bout de quelques temps pour qu'il trouve où est ton problème.
Alors, à l'instant, on a donné quelques pistes de réflexion et de solutions pour soulager ces problèmes. À l'instant également, tu viens de dire que ça peut venir également du coude. Et hier, quand on a parlé des prolongateurs pour la longue distance, tu as dit, attention, ça peut aussi provoquer un petit blocage à ce niveau-là. Ouais. Donc, pour les longues distances, je rappelle pour celles et ceux qui écoutent et qui ne maîtrisent pas encore l'ultra ou le long, qu'on va parfois utiliser des prolongateurs qui ne sont pas comme en triathlon ou en cyclisme sur route, en contre-la-montre ou piste, là pour un avantage aérodynamique, mais bien là pour justement poser les mains, poser les avant-bras sur un repose-bras et pouvoir relâcher la main et décontracter un petit peu le poignet, décontracter un petit peu les doigts. Il y a un mini effet aéro, évidemment, parce qu'on réduit la surface frontale. Mais quand même, l'objectif principal des prolongateurs en ultra et en long, c'est la réduction des compressions au niveau du poignet et la crispation des doigts. Quand ça ne passe pas, que l'on a consulté un chirurgien de la main, quelles sont les options ? Toi, qui as visiblement traité, comme tu m'as dit, pas mal canaux carpiens ce matin, quels sont les traitements quand décidément ça ne passe pas?
Quand ça passe pas, que tu vas voir ton chirurgien ou ton médecin généraliste qui te prescrit de l'électromyogramme, après avec l'électromyogramme, tu vas voir le chirurgien et on fait pas tout de suite de la chirurgie, pas toujours en tout cas. Si le canal carpien il est juste débutant, tu peux très bien faire des infiltrations de corticoïdes. Les infiltrations, en fait, ça se fait au cabinet sous échographie et on va mettre autour des tendons Un corticoïde, c'est un anti-inflammatoire qui va faire baisser l'inflammation dont je t'avais parlé tout à l'heure autour des tendons de la synovite. Et en général, oui, ça revient dans l'ordre assez rapidement et ça peut te laisser tranquille pour quelques années, voire pour toujours. Si ce traitement il fonctionne pas, ou bien si sur l'électromyogramme, tu as des signes un peu de gravité comme une atteinte motrice, par exemple, ou une compression qui est assez sévère, il vaut mieux opérer directement. Ça se discute avec ton chirurgien. Chaque personne est différente. Mais effectivement, on peut proposer au début un traitement médical avec des attelles, éventuellement, si les gens sont réveillés la nuit, et des infiltrations.
Également, parce que hier, quand on a blablaté un petit peu après l'épisode, tu m'as dit, tiens, j'ai oublié un truc. Dans le cas d'une douleur après une grosse sortie ou après un trip bikepacking, si on a une douleur, le type de douleur qui vient à réveiller la nuit, tu m'as dit la position attelle avec le poignet légèrement surélevé à 20 degrés comme ça, avec une attelle, ça permet de soulager.
Ça peut soulager les choses parce qu'en fait, tu vois, le canal carpien, c'est une compression ici. Et quand on dort tous un petit peu, tu sais, on se met comme ça en boule. Tout le monde est à se mettre un petit peu en... Et donc, pendant la nuit, tu vas encore plus comprimer ton canal carpien. Donc, le fait de détendre, de mettre une attelle la nuit, dans les suites comme ça d'une compression, ça peut un petit peu soulager les choses. C'est pas valable chez tout le monde, mais il y a des personnes chez qui ça marche, donc ça vaut le coup d'essayer. Donc, faut acheter une attelle en pharmacie et la porter juste la nuit, mais ça peut aider, ouais, au début.
Bah, c'est sûr qu'une attelle à vélo, c'est pas forcément évident, surtout si t'as mal aux deux mains.
Ouais, c'est compliqué, là. Vaut mieux prendre le prolongateur à ce moment-là.
Ah, bah oui, c'est vrai que pour faire du gravel, ça va être tellement pratique. Surtout pour prendre les virages. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Dis-moi, je crois bien qu'on a fait le tour, là. Bah, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter?
Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas si tu as d'autres questions. Moi, je pense que j'ai parlé
on a parlé des causes, des solutions possibles et puis du traitement. Donc,
pour résumer aussi, chez les cyclistes, c'est surtout des compressions qui vont être transitoires. On arrive rarement à une intervention chirurgicale. Dans des compressions qui durent très longtemps, avec des électromyogrammes qui sont pas trop sévères, on peut aussi donner des médicaments, tu vois, comme des corticoïdes et tout. Moi, je suis pas trop pour parce que c'est pas le meilleur médicament du monde, mais ça peut aider. Là, on en discute avec le patient. Mais enfin, quand ça dure trop longtemps, il faut vraiment consulter. En général, ça part dans les quelques jours.
Bah dans le cas du bikepacking, là, tu vois, je suppose que les participants de la French Divide, qui s'est arrêtée il y a quelques jours, je suppose que la plupart ne sentent pas encore leurs doigts, mais ça va revenir.
Ça, c'est normal. Quand tu passes autant de temps dans une position sur un vélo, forcément. Mais ça revient.
Ouais. Bien, et ben maintenant, on va parler de toi. Donc, Vanessa, va. Hein? Comment tu t'es retrouvée sur un vélo? Parce que c'est assez récent, m'as-tu dit. Alors, ouais, comment on se retrouve sur un vélo?
Écoute, j'ai commencé il y a un an et demi à faire du vélo parce qu'un proche m'a offert un beau vélo, m'a dit viens, on va traverser la France à vélo pour les vacances en août. Et moi, j'avais fait du vélo, tu vois, à l'île de Ré pour aller à la plage avec un panier, une béquille, etc. J'étais jamais montée sur un vélo de route ou un vélo gravel. Et je me suis entraînée jusqu'au mois de avril à août, pas mal, pour arriver à tenir c'était du bikepacking ou peut-être du cyclotourisme parce qu'on faisait quand même pas mal de kilomètres par jour. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, à la rentrée, je me suis inscrite dans un club de vélo, le club de ma ville, et je me suis mis à en faire régulièrement. Voilà, et ça me plaît beaucoup. J'ai du mal à faire autre chose maintenant de mon temps libre que du vélo.
Ça y est, tu es accro, tu es addict. Le verre est dans le fruit, j'ai envie de dire.
Je crois bien. Ouais.
Et donc, jeudi dernier, une journée tranquille, hein, rien à signaler. Et pourtant, tu t'es dit, demain, je pars au Mont-Saint-Michel, je me claque la vélocénie, personne ne veut venir avec moi. Eh bien, allez tous vous faire foutre, moi je pars toute seule.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'embellis un peu?
Non, c'est ça. C'est un peu ça. J'ai roulé un peu dans le sud de la France pendant les vacances. C'était canon. Enfin, tu vois, vers la Londe, Colobrière, des paysages magnifiques. Mais c'était des sorties dans la journée, tu vois, de 80-100 km. Et après, je suis revenue à Paris, j'ai tourné autour de Longchamp 2 fois dans la semaine, je me suis ennuyée, c'était horrible. C'était intéressant, bah oui. mais ennuyant. Et du coup, j'avais vraiment envie de sortir, j'avais un week-end de 3 jours et tout le monde était en vacances, me proposait des sorties, mais juste le dimanche pour le week-end. Et je me suis dit, bah là, j'ai 3 jours, vas-y, j'y vais, je me trouve un itinéraire sympa. Et voilà. Et la vélo Cénis, ça tombait bien parce que c'est un truc qui est bien balisé, que font pas mal de cyclistes. Et ça me faisait pas peur, en fait. C'était pas vraiment, entre guillemets, une aventure. Il y avait un village tous les 20 kilomètres, comme tu dis. Je me suis dit, allez, j'y vais toute seule. Et au début, j'étais pas partie du tout pour arriver jusqu'au Mont-Saint-Michel. Je me suis dit, bah, déjà, je vais aller à Chartres, où on s'est croisés, pas loin. Après, j'irai peut-être un peu plus loin. Et puis, quand je serai fatiguée ou quand j'en aurai marre, je reviendrai par le train. Et finalement, bah, je suis allée jusqu'au bout.
Alors, il faut quand même préciser, et ça tu me l'as dit hier en off, que même si tu étais officiellement parti en ne sachant pas si tu allais arriver, au fond de toi, il y avait quand même cette petite voix qui te disait « Ma grande, tu vas jusqu'au bout, tu vas au Mont-Saint-Michel. »
Ah, ouais, mais j'avais pris le train, tu vois, à Avranches, à 15h le dimanche. Et du coup, j'avais en moi, je m'étais dit, c'est sûr, il faut que j'y arrive. De toute façon, il faut que j'aille prendre ce train à 15h. Mais tu sais pas si tu vas être assez rapide, si tu vas pas avoir un problème de crevaison. D'ailleurs, je te remercie parce que j'ai cassé ma pompe et tu m'as gentiment dépanné d'une pompe de rechange qui était ma grosse angoisse depuis 40 kilomètres de pas savoir changer une roue de vélo et en plus ne pas avoir de pompe. Et du coup, je m'étais dit, je vais y arriver, vraiment au fond de moi je vais y arriver, mais il peut se passer des millions de choses qui font que je vais pas au bout et faut pas que je sois déçue ou faut pas que je sois embêtée si ça arrive pas, tu vois. Mais j'avais quand même réservé le billet de train pour revenir de là-bas. Alors,
c'est ça qui me sidère avec toi, c'est que bien entendu tu maîtrises l'anatomie du poignet comme personne, tu es capable d'opérer. Et on en a rigolé évidemment quand on a parlé un petit peu de tubeless. Tu es capable d'opérer un poignet, de zigzaguer, de slalomer entre les tendons. Par contre, démonter une chambre à air, c'est l'angoisse totale. Tu m'as fait rire.
Mais non, mais c'est parce que je l'ai jamais fait toute seule. En fait, je pense que quand ça arrivera, je le ferai. Mais ouais, je sais, c'est bizarre, mais ça m'angoisse.
Bah,
pour l'instant, je croise les doigts pour
pas
crever.
Je pense.
J'ai eu de la chance sur la vélocité.
N'étant pas chirurgien de la main, bien entendu. Quelque chose me dit que changer une chambre à air ou monter un pneu en tubeless, c'est plus facile qu'opérer une main.
Écoute,
et ça, évidemment,
je n'en suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que tu sais quoi, en fait, opérer, finalement, bon, il y a des chirurgies compliquées, mais la plupart de la chirurgie, c'est assez simple. En chirurgie, ce qui est difficile, c'est de poser le bon diagnostic et d'opérer les bonnes personnes. Après, une fois que tu as appris le geste et que tu l'as fait des milliers de fois, c'est facile. Et j'avais un de mes professeurs en fac de médecine, il me disait on pourrait apprendre à un singe à opérer, de toute façon il le ferait. C'est pas ça l'important de la chirurgie, c'est le diagnostic que vous allez poser et trouver la bonne opération pour le bon patient, tu vois. Donc finalement, c'est changer une chambre à air, je pense que c'est comme opérer un canal carpien. Finalement, ça doit pas être beaucoup plus facile, hein. C'est le même genre.
Alors, le canal carpien, si on reste dans l'analogie, La chambre à air, c'est très con parce que t'enlèves et tu remets, voilà. Après, il y a une petite difficulté, c'est que si tu t'y prends mal, notamment si tu oublies de regonfler un tout petit peu, tu peux t'acharner à mettre la chambre dans le pneu et après faire un petit pli et la pincer avec ton démon de pneu. Mais par contre, ce que tu viens de dire, ça s'applique beaucoup plus au tubeless, où souvent on entend des critiques, tu vois, un petit peu binaires, du style c'est de la merde, ça marche pas, et de toute façon on crève quand même avec le tubeless. Et ben en fait, quand on maîtrise un petit peu son affaire, on se rend compte qu'il y a plusieurs degrés de gravité, et que selon la gravité de la crevaison ou de la non crevaison d'ailleurs, parce que généralement on va même pas s'en rendre compte, et ben on va appliquer une méthode différente. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'expérience et d'un bon apprentissage. Mais on en reparlera, parce que visiblement je suis la personne toute désignée pour t'apprendre à monter tes pneus. Donc, tout va bien se passer.
Bah ouais.
Et il ne s'est rien passé de particulier sur la vélocénie.
Non,
à part
trop bien.
Que tu as farfouillé dans ta poche, tu as perdu ta pompe, un camion est roulé dessus. Sincèrement, on l'a tous fait.
C'est
arrivé
à la plupart
d'entre nous,
ce
genre.
J'ai rencontré que des gens sympas. J'ai un peu flippé. Je t'avais dit, j'ai fait toute une petite liste de tout ce que j'avais appris De strip, parce que même si tout s'est bien passé, il y a quand même eu deux, trois petits trucs où je me suis dit, là, j'aurais dû faire ça, là, j'aurais dû prendre un cadenas parce que on va pas laisser prendre mon vélo dans ma chambre à Donfront. Donc, je me suis dit, j'ai trop mal dormi la nuit. Je me disais que j'allais me réveiller, que le vélo serait plus là, qu'il était, ils m'ont fait mettre dans la cuisine entre deux casseroles. Enfin, c'était l'enfer. Et là, je m'étais dit, si j'avais un cadenas, je serais peut-être un peu plus rassurée. Donc, voilà, la housse pour le retour. Bon, finalement, c'était un TER, donc il n'y a pas eu de souci, mais ça m'a un peu pris au ventre pendant tout le chemin. J'ai même acheté des sacs poubelles de 150 litres en me disant, je vais le plier. J'ai vu un tuto, justement, sur Internet où on peut plier son vélo et le mettre dans du cellophane et tout. Donc, j'étais prête à faire ça. Tu vois qu'il l'a fait, ce tuto, ou pas?
Ah non, 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 je fais pas de tuto cellophane, moi, madame.
C'est Sofiane. Il a fait un tuto cellophane.
Ah, c'est Sofiane. Oui, Sofiane, il a fait ça, ouais.
Ouais. Donc, j'avais regardé ça et je m'étais dit, bon, bah, je vais faire la même chose, hein, si jamais j'ai pas de housse. Donc, bref. Du coup, il y a plein de petites choses que j'ai appris, mais c'est rien passé de grave. C'était vraiment super et j'ai pas été trop fatiguée. C'était bien.
Ben oui. Bah oui, parce que là on est mardi, mardi il est bientôt 14h, on s'est parlé hier soir et dimanche soir et à aucun moment je n'ai senti une fatigue excessive, je suis au bout de ma vie, tu as fini fraîche comme une rose, j'ai envie de dire.
Ouais, peut-être pas fraîche comme une rose, parce que j'ai quand même la paresthésie dans le nerf ulnaire, mais en fait j'ai bien géré parce que tu vois le premier, je crois, hein, parce que le premier jour j'ai fait 200 km, c'est vraiment une distance que j'avais jamais faite. Le deuxième jour, j'ai fait 160 à peu près et c'était quelque chose que j'avais déjà fait, donc qui me faisait moins peur. Et puis le dernier jour, il y avait plus que 100. Donc finalement, c'était en dégressif comme ça passait vite. Je pense que si j'avais fait l'inverse, j'avais fait quelques kilomètres au début et j'avais gardé tout pour la fin, je serais arrivée vraiment pas bien. Du coup, c'était pas mal de gérer ça comme ça. Et non, là, je suis pas fatiguée. J'ai encore envie de rouler là.
Pas de blessure, bon, à part cette petite paresthésie aux deux doigts, pas de douleur cervicale, fesses, genoux,
non,
rien.
Tout va bien.
Prête à repartir ce week-end alors?
Ce week-end, ouais, je pense. Ce week-end ou le week-end prochain.
Ce week-end ou dans deux semaines?
Bah, je sais pas trop encore, mais ce week-end, il y a des chances que je fasse une sortie, mais peut-être que je vais faire une sortie club de 100 km dans la vallée de Chevreuse avec mon club de vélo, ou alors, c'est ce que je te disais, j'irai bien à Deauville manger des fruits de mer en partant tôt le matin. Je pense que je peux arriver pour le dîner.
Ouais, histoire d'avoir des fruits de mer pas tout à fait frais et puis d'envisager le retour sous les meilleurs auspices. C'est vrai que c'est tellement drôle.
Pourquoi pas frais?
Ah bah, je sais pas, moi.
Si.
Journée et tout, les machins ont pris le soleil, un bulot pas frais, et puis voilà, ta sortie, elle est faite.
Je reviendrai en train.
Qu'est-ce que tu envisages maintenant? Parce que tu l'as un petit peu dit, mais jusqu'à très récemment, donc même jusqu'à vendredi, ta sortie la plus longue, c'était une centaine de kilomètres, et c'était déjà beaucoup pour toi. Tu as fait 100... tu as passé la barrière des 100 grâce à notre pote, notre ami en commun, Sébastien, que je salue bien bas par la même occasion, et également Jean-Baptiste. On n'en a pas parlé de Jean-Baptiste, mais je le connais depuis 4-5 ans, JB, et il a vu mes débuts en gravel et il a supporté toutes mes excentricités. Mais jusqu'à très récemment, ton max, c'était 100 km, et maintenant, c'est 200. Et eh ben ouais. Alors la prochaine étape c'est quoi?
Ouais, alors j'avais déjà fait, tu vois, sur le Paris-Nîmes, on avait déjà fait des longues distances. Il y a même une journée où on a dû faire 180 km ou même 170, donc j'avais déjà fait des très longues distances l'été dernier, mais c'était dans le concept du road trip, c'était pas juste comme ça sur une journée où tu as eu ta semaine de boulot et que tu repars le lendemain. C'est vrai que des sorties longues comme ça, de week-end, on va dire, ta sortie du dimanche aussi longue, ça me paraissait le bout du monde. Là, les prochaines étapes, ben, écoute, je sais pas trop. Déjà, j'ai envie de refaire des road trips comme ça me plaît beaucoup, soit toute seule, soit avec des copains. J'adore. Et puis, pourquoi pas faire des petites courses, on en avait parlé, notamment en Espagne l'année prochaine. Mais pour ce genre de choses, il faut que je m'entraîne parce que je suis vraiment... débutante dans le vélo, j'ai une technique qui est pas terrible et il y a plein de trucs à améliorer avant de mesurer à d'autres personnes, je crois.
Non, non, c'est des conneries ça.
C'est vrai, je peux y aller comme ça.
Ben, à partir de quoi tu dis, sur quel critère tu dis, ok, là je suis prête? Sur quoi tu vas te baser pour dire là, ok, j'ai le droit d'aller me mesurer où je suis crédible pour aller où je suis légitime pour aller me mesurer à d'autres. Est-ce que un, il y a des critères pour mesurer ça? Est-ce que il faut être vraiment crédible et légitime pour aller se mesurer à d'autres? Faut-il vraiment aller se mesurer à d'autres? Bah, tu vois.
Non, voilà. Je suis d'accord avec
toi.
Trois conneries
dans une même phrase. Bravo.
Ouais, ça fait beaucoup de questions en fait là pour répondre à une seule phrase, mais oui. En gros. C'est sympa de faire du backpacking, de se balader et tout, t'es tranquille, t'avances et tout, c'est chouette. Mais je pense que la course, ça te donne une autre dimension assez marrante où tu t'essayes d'aller un peu plus loin dans tes capacités, t'essayes d'aller... T'es plus pressé, on va dire, par une envie de réussite. Alors, c'est sûr que tu peux y aller quand tu veux, mais je pense qu'il faut être bien entraîné. Tu vois, il y a plein de trucs... qu'il faut que j'apprenne avant de me lancer dans un truc comme ça, mais peut-être pas. Hein. Peut-être que je vais avant. Peut-être qu'avant la traca, il y aura d'autres trucs sympas à faire.
Mais il y a plein de trucs sympas à faire, et puis tu vas te préparer, et puis ça se passera très très bien. Voyons.
Merci Richard.
Il
n'y
a aucune raison. Et puis une course. Faut pas oublier qu'une course, ça concerne au sens strict de la compétition, ça concerne qu'un pourcentage infime de participants. Donc sur un événement comme Traca 360 où il y a plusieurs centaines de participants, ça va peut-être concerner maximum 30 personnes, hommes et femmes. Et les autres sont juste là pour essayer de faire leur mieux, de faire leur performance. Pour rappel, une performance personnelle, c'est arriver au bout sans avoir cassé le matériel et sans s'être fait mal. C'est simplement ça, et à partir de là, on parle de performance.
Ouais.
Et la confrontation avec les autres n'existe plus. On parle d'émulation, de bons moments, de rencontres,
ouais, bah
mais
c'est
on parle
ça,
pas
plutôt.
De confrontation avec les autres.
Non, c'est ça plutôt qui me branche, tu vois, c'est de rencontrer d'autres gens qui aiment faire la même chose, de rouler avec pas mal de personnes. Mon but, c'est pas d'être première, je me doute bien que je vais pas... le but, c'est de finir déjà la course, je serais déjà hyper fière, mais même pour ça, je pense qu'il faut quand même que je m'entraîne. Et d'être de l'émulation...
Oui.
L'ambiance, tu vois, c'est quelque chose que j'ai envie de voir avec Sébastien, justement. On en parlait tout à l'heure. On a fait deux petites courses gravel en juin de 100 km. Et franchement, c'était trop sympa. On a rencontré des cyclistes. On s'est bien marré. Il y a une ambiance que j'ai adorée dans ces événements. Et sur une longue distance, ça pourrait être sympa de faire ça aussi.
Alors, jusque-là, t'as l'air d'une personne super sympa. Mais il faut quand même préciser que ton envie d'aller à Gérone, elle est quand même muée par elle naît du fait que tu sois une mère indigne.
Non, arrête.
Parce que il faut préciser que récemment, récemment, t'es allée en vacances à Gérone avec ta fille, et toi, tu y es allée donc en fin avril dernier, et tu as vu The Traca, et la seule chose dont tu avais envie, c'était de sauter sur un vélo et de te barrer. Donc oui, ça me fait dire que quand même,
non.
T'es un peu une mère indigne quand même.
Non, mais en fait, je connaissais pas les courses de gravel, etc. Et j'arrive à Gérone avec ma famille, et on voit des vélos partout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette ville magnifique avec que des cyclistes dans tous les restaurants, en plus les vélos, il y avait des gravel, mais des tellement beaux vélos partout. Ouais. Et je me dis, ils ont tous des beaux vélos. Et je demande et on me dit, il y a une course cycliste ce week-end-là. Et du coup, j'étais un peu frustrée, quoi. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un peu de vélo. J'ai pas mon vélo. Je suis en tong, là, en train de me balader dans les rues de Gérone. L'année prochaine, je reviendrai sur mon vélo. Mais je ne suis pas une mère indigne. Ma fille comprendra très bien mon envie d'y retourner. D'ailleurs, elle est pas très vélo, donc elle aura pas forcément envie de revenir avec moi d'affaires.
Et tu m'as dit, elle sera très contente pour toi que tu fasses des trucs marrants et que maman revienne de bonne humeur.
Ouais.
Ouais, c'est important ça, c'est important. Vanessa, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter avant ta minute de solitude? Parce que hier, je t'ai pris un petit peu au dépourvu, je t'ai prise par surprise. Mais maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Donc, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter?
Non, mais je me suis pas préparée en fait. J'ai fait comme si on avait oublié hier et... J'étais pas au courant de cette minute.
Ah non, mais je te l'ai dit. Hein. Avec moi, il faut faire comme si c'était rien passé avant.
Il s'est rien passé.
Sinon, ça se passe toujours. Et voilà,
je te remercie
exactement.
En tout cas. C'était super.
Il ne se passe rien.
Bon, de discuter avec toi de tout ça.
Et ben, c'est un plaisir partagé. Je te laisse pour ta minute de solitude. Tu te souviens les consignes? Hein?
Non, je me souviens plus trop.
Et ben, quand t'as fini, tu restes là quand même. Et je reviens après.
D'accord, ok. Bon, bah, il est vraiment parti, comme hier. Bon, bah écoutez, j'espère que bah, ça vous a bien servi, que j'ai éclairé quelques questions sur le sujet du canal carpien. Faites attention à vos mains. Quand ça commence à fourmiller, il est déjà un peu trop tard, mais on peut toujours changer la position des mains sur le guidon. Moi, je vais faire beaucoup de vélo, je pense, et je suis partie pour de prochaines aventures. Et je remercie Richard de m'avoir fait participer à ce podcast. C'était super. Merci.